quedo ya.
Bye.
Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre.
Principe Actif, le mix des cultures.
C'est celui de
Principe Actif. Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Bon, vous voulez envoyer un peu de musique, cher ami?
Everybody dreams 5-9 dreams every night.
It never occurs to one who looks that life never reads like an open book. Plans get damaged.
RFI 7h à Paris, 8h à Addis Abeba.
Andréane Mélard.
Bonjour à vous, très heureuse de vous retrouver RFI Matin. 7h, 10h de l'info, des invités, des reportages ce lundi au programme L'Éthiopie où on vote en ce moment même pour élire les députés qui derrière choisiront le Premier ministre. Abiy Ahmed veut rempiler. On parle aussi du Liban ce matin. Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Andréane. À la une, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée en urgence aujourd'hui. Alors qu'au Liban, l'invasion israélienne s'accélère, Benjamin Netanyahou dit vouloir étendre son offensive contre le Hezbollah dans le pays. Le tour des réactions à Beyrouth dans un instant avec notre correspondant sur place. La guerre au Moyen-Orient et de nouvelles frappes américaines contre l'Iran annoncées ce matin. Le Koweït dit répondre lui à des attaques de drones et de missiles. Dans ce journal également, la Colombie et la surprise du premier tour de la présidentielle. L'extrême droite déjoue les pronostics et arrive en tête du scrutin. Une journée d'élection également en Guinée hier et l'affluence particulièrement faible aux élections législatives et communales. Et puis une soirée pour célébrer une victoire à la saveur particulière. Les joueurs du PSG, vainqueurs d'une deuxième Ligue des Champions d'affilée, ont retrouvé hier soir le Parc des Princes.
Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée en urgence aujourd'hui.
À la demande de la France, où Emmanuel Macron affirme que rien ne justifie l'escalade majeure en cours au sud Liban. Une journée de frappe israélienne particulièrement violente hier, notamment autour de la ville côtière de Tyr et Israël, qui a franchi de nouvelles étapes dans l'invasion du pays. Un appel à évacuer sur une zone de 40 km entre la frontière et le fleuve Zarani et la prise du château de Beaufort, site stratégique et citadelle historique pourtant protégée par l'UNESCO. Benjamin Netanyahou évoque un tournant décisif. Bonjour Paul Khalife.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
En direct de Beyrouth pour RFI, le Premier ministre israélien dit vouloir intensifier son offensive et étendre son emprise sur le Liban. Quelle réaction dans le pays ce matin ?
Eh bien, l'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques, la colère du Hezbollah et l'exaspération de la population. L'embarrassement du président Joseph Aoun et du premier ministre Nawaf Salam est d'autant plus grand que l'élargissement de l'invasion israélienne est intervenu alors qu'ils sont pleinement engagés dans des négociations directes avec Israël. Des négociations qui n'ont donné aucun résultat au niveau de la consolidation de la trêve. Un député du Hezbollah, Ali Fayyad, n'a pas manqué d'ailleurs de souligner que l'absence de résultats concrets est la preuve que l'échec du pari sur l'option des négociations directes avec Israël est consommé. Le président du Parlement, Nabih Berri, la plus importante figure chiite de l'État, a déclaré qu'il se portait garant du respect sans réserve et sans délai d'un cessez-le-feu par le Hezbollah. Mais il s'est demandé, je cite, « qui obligera Israël à mettre fin à son agression et à cesser de démolir des villages et des maisons ?» Sur le plan populaire, un début d'agitation s'est produit dimanche. Des partisans du Hezbollah se sont rassemblés dans le centre-ville de Beyrouth pour dénoncer l'incapacité des dirigeants à protéger le pays et ses citoyens face à Israël.
Paul Khalife, merci beaucoup. Alors que la guerre menée par Israël au Liban a fait plus de 3400 morts dans le pays depuis le 2 mars, le Hezbollah continue lui aussi ses tirs en direction d'Israël. C'est à la une de notre grand reportage du jour, dont vous entendrez un extrait juste après ce journal.
La guerre au Liban, dont l'Iran demande toujours la fin dans le cadre des négociations avec les États-Unis.
Des pourparlers qui patinent de nouveau, puisque les États-Unis annoncent ce matin avoir frappé dans le week-end des radars et des sites de contrôle de drones en Iran. Le Koweït annonce de son côté faire face ce matin à une attaque de missiles et de drones. Et les gardiens de la Révolution disent avoir visé une base utilisée pour des frappes américaines. L'Iran et les États-Unis semblaient se rapprocher d'un protocole d'accord ces derniers jours. Mais le New York Times a annoncé samedi que Donald Trump avait finalement durci sa position. Hier, le principal négociateur iranien déclarait que l'Iran ne signerait pas d'accord sans recevoir de garantie sur ses droits. De son côté, le média CNN révèle dans une enquête les limites de l'offensive américaine. Des images satellites montrent que le régime iranien a pu déblayer à l'aide de simples bulldozers des sites souterrains de lancement de missiles frappés par Israël et les États-Unis.
La guerre qui semble avoir servi de prétexte à une répression accrue des libertés publiques dans les pays du Golfe.
C'est ce que révèle ce matin un rapport d'Amnesty International qui décompte plus de 1000 personnes arrêtées depuis le début de la guerre, notamment après avoir relayé des contenus en ligne ou exprimé leur opinion sur les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. L'Organisation de défense des droits humains précise qu'au Koweït et à Bahreïn, des citoyens ont même été déchus de leur nationalité. D'autres ont écopé de peines de prison allant de 3 à 10 ans, Alice Froussard.
Lorsque les attaques américano-israéliennes sur l'Iran débutent fin février et que leurs répercussions se font sentir dans tous les pays du Golfe, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite et Oman émettent des avertissements généraux à leurs citoyens contre le partage de contenu en ligne. Mais très vite, les arrestations sont massives, disproportionnées. Anne Savinel Barras est la présidente d'Amnesty International France.
Que ces États aident à se protéger, certes, mais à ce moment-là, on fait des lois plus précises, ciblées.
Car les restrictions vont bien au-delà de ce que permet le droit international. Certains sont détenus au motif d'avoir glorifié un État hostile et ses dirigeants militaires alors qu'une simple sympathie envers l'Iran était exprimée. D'autres, parce qu'ils ont posté ou reposté des vidéos d'information sur les réseaux sociaux, sont accusés de nuire à la sécurité de l'État. Une volonté pour ces pays du Golfe de garder une belle image et de renforcer l'autoritarisme avec lequel ils gouvernent.
Les États veulent avoir une emprise totale sur leur territoire pour empêcher la population de dévier de la pensée unique qui est donnée par les autorités. On bascule dans des restrictions très fortes à la liberté d'informer, à la liberté d'être informé, et puis aussi à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, bien entendu.
Une mainmise sur l'information qui contribue au climat de confusion et de peur de tous ces citoyens.
Alice Froussard.
L'actualité ce matin, c'est aussi en Colombie. Les résultats du premier tour de la présidentielle hier et une surprise.
L'erreur des sondages, alors que le successeur désigné de Gustavo Petro, le président sortant, était considéré comme le favori. C'est finalement l'extrême droite qui est arrivée hier en première place. 43,7% des voix pour l'avocat millionnaire Abelardo de la Espriella. Le sénateur de gauche Ivan Cepeda est finalement arrivé deuxième. 40,9% selon des résultats quasi définitifs. Correspondance à Bogota de Marie-Ève de Teuf.
Aucun sondage n'avait annoncé le score d'Abelardo de la Espriella, mais tous avaient enregistré depuis un mois la phénoménale percée de cet outsider d'ultra-droite qui se fait appeler le tigre. La douche est froide pour le candidat de gauche, Ivan Cepeda, que tous les sondages donnaient favori du premier tour depuis des mois. De l'Espriella se présente comme un candidat anti-système. Il promet, entre autres, de mettre tous les criminels en prison ou de les exterminer, je cite, comme des rats. Ce discours sécuritaire a payé, mais la gauche n'est pas balayée. De l'Espriella et Cepeda totalisent à eux seuls près de 85% des voix. C'est dire si l'opinion est polarisée. Dès que les résultats sont tombés, experts et analystes ont sorti leurs calculettes et leurs pronostics pour le deuxième tour. Où vont aller les votes des autres candidats? La candidate de la droite dure traditionnelle, Paloma Valencia, qui avec 6% des voix est la grande perdante de cette élection, a immédiatement annoncé son soutien à de l'Espriella. Au centre, les petits candidats hésitent encore. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Et le candidat de la gauche, Ivan Cepeda, qui cherche les raisons de sa deuxième place surprise, il affirme sans donner de preuve que 10 millions de votes ont été mal comptés et dit vouloir enquêter sur un écart de 885 000 personnes dans le recensement électoral. Le second tour de la présidentielle en Colombie est prévu le 21 juin.
Du côté du Pérou, ce sera dimanche prochain.
Le second tour qui opposera, lui, le candidat de gauche, Roberto Sanchez, et la candidate de droite, Keiko Fujimori. Mori, fille et héritière politique de l'autocrate Alberto Fujimori. Elle semble légèrement devant dans les sondages, mais son avance s'est réduite d'un point en 10 jours. Les deux candidats s'affrontaient hier soir dans un ultime débat. On en parle à 7h, temps universel.
Dans la région au Nicaragua, la mort en détention d'un chef indigène emprisonné depuis 3 ans.
Brooklyn Rivera, chef des Indiens Miskitos, l'ethnie la plus importante de la côte caribéenne du pays. Il avait été arrêté en septembre 2023 après avoir dénoncé dénoncé le sort des populations indigènes lors d'une conférence internationale. Amnesty International le considérait comme un prisonnier d'opinion. Les États-Unis demandaient sa libération et un groupe d'experts de l'ONU avait demandé il y a un mois des preuves de vie. Le gouvernement avait publié mercredi des photos de lui très amaigri et sous assistance respiratoire à l'hôpital. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains exige une enquête indépendante et transparente.
Il est 5h10 à Conakry. Ce dimanche était aussi une journée de vote en Guinée.
Après la présidentielle de décembre et la victoire du chef de la junte Mamadi Doumbouya, 4 ans après son coup d'État, des élections législatives et communales hier qui se sont déroulées dans le calme, sans incident majeur, mais avec, il faut le noter, une affluence particulièrement faible dans les bureaux de vote. Tanguy Billan.
Dans le quartier de Kamayen, proche du centre-ville de Conakry, les bureaux de vote sont restés vides pendant l'essentiel de la journée. Mais Abdoul, lui, s'est rendu aux urnes et il exhibe fièrement son doigt plein d'encre.
Même s'il y avait peu de gens, c'était important de voter. Moi, je soutiens Mamadi Doumbouya. Je veux qu'il dispose d'une large majorité à l'Assemblée pour qu'il puisse faire passer ses lois et que le pays se développe sur le plan économique. Mais le plus important pour moi, c'est l'élection communale. Je veux qu'on ait une bonne équipe municipale ici à Kamayen pour développer le quartier et rénover les écoles.
Amadou, lui, n'a pas voulu prendre part au vote. Les Forces Vives, la coalition qui regroupe notamment les partis d'opposition dissous en mars dernier, comme le RPG ou l'UFDG, avait appelé au boycott. Il a suivi leurs consignes.
Les conditions n'étaient pas réunies pour voter. Ces élections ne sont pas équitables. Elles ne sont pas libres ni transparentes. Les résultats sont connus d'avance. Alors à quoi bon voter? J'aurais voté si mon vote avait pu représenter quelque chose, si les partis politiques représentatifs avaient pu présenter leurs candidats. Mais là, ça ne sert à rien. Donc, j'ai suivi leur appel au boycott.
Pour plusieurs observateurs de la vie politique guinéenne, cette faible affluence pourrait aussi s'expliquer par la date choisie par les autorités. La Tabaski a en effet eu lieu cette semaine et a été fêtée en famille au village. Beaucoup d'électeurs ne sont probablement pas encore rentrés sur leur lieu de vote. Tanguy Billan, Conakry, RFI.
Et puis, Julien, Paris de nouveau en fête hier.
La capitale française qui avait déjà chaviré samedi soir et qui a célébré ce dimanche en beauté le retour des joueurs du Paris Saint-Germain avec une deuxième Ligue des Champions d'affilée dans leur bagage. Ils sont venus la brandir sous la Tour Eiffel avant de passer par le Palais de l'Élysée. Et la soirée s'est terminée bien sûr dans l'antre des Parisiens, le Parc des Princes, où quelques 40 000 supporters s'étaient rassemblés. Un bonheur partagé sous les yeux et au micro de Baptiste Leduc.
Les supporters étaient tellement heureux de retrouver leur héros que Nasser Al Khelaifi, le président du PSG, a eu toutes les peines du monde à commencer son discours.
despierta. Cause it feels like it just feels right. He estado esperando esto for my whole life.
Thank you.
Depuis qu'Internet révolutionne les relations entre les hommes en faisant tomber les barrières, les frontières, nos vies, nos sentiments, notre quotidien risque de devenir de moins en moins concret et de plus en plus virtuel.
Principe actif, le mix des cultures.
Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net.